Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour à toi.
Nous voilà toujours sur la création, le Créateur, Dieu, le Créateur. Nous avons parlé de la catéchèse sur la création, essayer de revoir ce retour, ce désir de retourner aux origines, de comprendre les origines, donc des philosophies posent un retour aux origines. Pour nous, dans la foi, il est important de se rendre compte que la création nous livre des choses à comprendre, et en même temps, toute la création n'est pas de l'ordre du visible. Je vois dans le catéchisme cette citation de la lettre aux Hébreux qui me semble importante à garder en tête. Donc c'est la lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 3. « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. »
Oui, c'est une formule lumineuse dans la mesure où ce que l'on voit, c'est la matière, et les mentalités matérialistes ont vite fait de vouloir circonscrire le réel à la matière visible, à la matière perceptible, même avec le télescope ou le microscope. On arrive toujours à une matière qui est, d'une certaine manière, que l'on arrive à voir par les sens, à limiter quelque sorte. Mais cette affirmation nous permet de transcender le niveau de la matière et de comprendre qu'il y a une origine et que Dieu est celui qui n'est pas apparent et par sa parole a créé cet univers. Je pense que l'intelligence humaine est capable de faire ce saut entre la multiplicité des choses et leur agencement qui est assez extraordinaire, qui permet de voir qu'il y a de la finalité dans tout ce qui est. Les choses ne sont pas pur chaos, pur hasard ou pure nécessité, mais il y a une orientation générale, et les grands savants l'ont dit avec beaucoup de lumière, comme chez nous en France, fameux Louis Pasteur qui disait « un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène », c'est-à-dire à force de contempler cette matière, ce réel, on comprend qu'il y a des principes vitaux, qu'il y a un agencement général, qu'il y a une cohésion, qu'il y a une lumière. Et en Allemagne, Heisenberg avait des paroles tout à fait similaires. Donc les grands savants, je dirais, arrivent à cette intelligence. Mais c'est vrai que c'est difficile, et nous évoquions un texte de Pie XII qui dit que c'est vrai que la raison humaine a des capacités, a des forces, des possibilités par sa lumière naturelle à arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, mais en même temps, il faut bien le reconnaître qu'il y a des obstacles qui empêchent cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel, car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépasse absolument l'ordre des choses sensibles. Donc on retrouve cette idée de la limite du matériel, du sensible, et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elles demandent qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficultés de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. C'est-à-dire qu'il y a, nous sommes comme orientés à découvrir l'origine qui transcende, dans le fond, la matière, mais en même temps, il y a en nous, malheureusement, de fortes résistances. Voilà ce que dit en gros Pie XII.
Nous pourrions vouloir rester, en fait, à ce qui est visible, ce qui est immédiatement lisible, oui. Et oui. Nous dire, je m'appuie sur ça pour comprendre la création, mais je ne veux pas intégrer quelque chose qui n'est pas dans l'apparence. Or, le mouvement de la foi, c'est de dire surtout appuyons-nous sur ce que nous voyons. C'est donné par Dieu d'une certaine façon.
C'est donné par Dieu.
Mais ça nous porte plus loin si l'esprit est un vrai esprit, j'allais dire une vraie curiosité.
Une vraie curiosité. Et ce qui est formidable dans la révélation, c'est qu'elle vient confirmer cet esprit de curiosité, ce bon esprit de curiosité, de recherche de la vérité. et qui n'a pas peur devant les conséquences de cette découverte. Parce que s'il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout, il est aussi celui qui va nous regarder et qui va pouvoir nous estimer, évaluer nos actes. Et de cela, certains ont peur. Pie XII, en 1950, a une formule qui est tout à fait...
Tu m'évoquais ça il y a quelque temps.
Oui, oui.
Je l'avais noté, et oui. Elle est dans mes papiers. Là. Les hommes se persuadent facilement de la fausseté...
Se persuadent facilement de la fausseté ou du moins
de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Excuse-moi, c'est mal écrit. Je la redis. Les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies.
Oui, car à ce moment-là, dès qu'on a accepté que Dieu existe, eh bien, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui voit tout, qui nous voit tout le temps, et qui sans cesse nous aide dans toutes nos facultés à être. Et il y a quelque chose de tout à fait, je dirais, pour quelqu'un qui n'a pas encore atteint la confiance et le pardon de ses péchés, la justification, il peut tout à coup trembler. Saint Paul dit une fois, faites votre salut avec tremblement. Donc on peut très vite tout à coup être devant un gouffre angoissant par rapport à cette découverte. Kierkegaard disait avec crainte et tremblement. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un abîme que l'on découvre quand on découvre qu'il y a le Créateur et qu'il est tout puissant et qu'il voit tout et qu'il sait tout.
Donc il y a cet appel à lire ce qui est visible, la création, ce qui nous aide à déjà comprendre quelque chose de la création, mais à chercher plus loin que ça. Et du coup, dans ces articles du catéchisme sur la création, il y a cette deuxième section, la création, œuvre de la Sainte Trinité. Du coup, là, on fait un saut.
Oui, alors là, le saut est encore plus énorme, parce que découvrir qu'il y a un premier principe que les traditions religieuses appellent Dieu, je dirais, c'est de l'ordre du possible encore. Les grands savants, les grands philosophes ont été, dans l'ensemble, certains de l'existence de ce premier principe. Par contre, que ce premier principe soit Père, Fils et Saint-Esprit, ça, nulle intelligence n'est capable de le trouver. Et Jésus le dit une fois dans une exultation du Saint-Esprit, « Je te bénis, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux simples et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » C'est-à-dire que cette révélation que le Père est créateur avec le Fils et avec le Saint-Esprit, il faut une révélation spéciale. L'intelligence ne peut pas remonter à cette source. Il a fallu que, par condescendance, comme disent les pères de l'Église, sans aspect péjoratif de l'expression, l'expression vient de Saint Jean Chrysostome, Dieu est descendu parmi nous, condescendance, il est descendu parmi nous pour nous le révéler, parce que nous n'aurions pas été capables de comprendre que le Créateur est à la fois le Père Tout-Puissant, le Fils bien-aimé, la parole vivante du Père, et l'Esprit d'amour qui vient tout réunir, qui fait tout sortir du Père et qui réunit tout par le Fils au Père dans ce mouvement de sortie de Dieu et de retour à Dieu.
Et en t'écoutant, je repense à une expression qu'on trouve, une expression scripturaire, dès avant la fondation du monde. Il y a cette espèce de... C'est chargé d'un tel mystère.
Oui, dès avant la fondation du monde, exactement. Ça, c'est bien la certitude de foi que Dieu n'est pas dépendant de sa créature. Il n'est pas un parmi les nombreuses réalités que nous rencontrons créées. Il est au-dessus, il transcende. Il est tout à fait, il est avant la création du monde. Et Jésus le dit dans sa prière sacerdotale, donc en Jean chapitre 17, qu'il veut retrouver la gloire qu'il avait avant qu'il soit dans cette réalité terrestre où il a assumé notre réalité humaine.
Cela me rappelle encore autre chose. D'ailleurs, je vois que dans le numéro 290, la création œuvre de la Sainte Trinité, il y a ce terme Le Dieu seul est créateur, le verbe créer en hébreu bara. Ça me fait penser au premier terme du livre de la Genèse, Bereshit bara Elohim. Alors toi qui es très très bonne hébraïsant, ça me rappelle, il me semble qu'on trouve chez certains commentateurs, et notamment je crois chez Rashi, l'idée que la Bible commence avec la deuxième lettre de l'alphabet, Bereshit,
oui.
Bet.
Oui.
Alors on aurait pu attendre la première lettre, parce que c'est très sensible, je crois, Or, si je me souviens bien, ce Bet, je crois que Rashi dit, ça a une forme telle qu'on ne peut pas remonter en deçà de notre expérience. Si ce n'est dans ce mystère de Dieu qu'on ne peut pas mettre dans sa poche, si je puis dire, et la forme de la lettre est donc, c'est donc un carré avec un côté
vide.
Oui, oui. Et le texte s'écrit de ce côté vide, c'est-à-dire qu'on est entré dans l'expérience de la création que Dieu nous a offerte.
Oui, c'est tout à fait bien vu, parce que le beit ou le veit s'écrit avec comme un carré dans lequel il manque un côté, mais le tout premier, l'extrémité est comme un mur qui est impénétrable, si on ne veut pas aller au-delà de cette première lettre, puisque c'est par là que tout commence, et d'une certaine manière, tout ce qui suit est encadré par les lignes parallèles qui sont au-dessus et en dessous. Et l'ouverture est vers la suite du texte « Bereshit, bara, Elohim », comme tu as dit très bien, « au commencement ». Créa Dieu, donc sous-entendu Dieu créa la terre et le ciel, Hashamayim, le ciel, et Haaretz et la terre. Et Dieu a tout créé, et il a créé même le monde invisible, parce que dans le ciel, quand on dit Dieu a créé le ciel et la terre, c'est aussi le monde des anges, le monde donc des réalités que nous découvrirons pour la plupart d'entre nous après notre mort, que certains découvrent avant par le biais des envois, des missions célestes que Dieu peut envoyer.
Merci bien.